affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons cheminer du 25 août 1977 au 24 décembre 2014. Inutile de chercher, chers auditeurs, en quoi ces dates sont particulièrement importantes dans l'histoire de l'humanité. Elles ne le sont pas, elles bornent simplement le journal que vient de publier Thierry de Montbrial aux éditions Albin Michel. Un livre singulier, un livre qui se détache d'ailleurs de la production habituelle de l'auteur, puisque dans ce journal alterne l'intime et le public, l'anecdotique et le fondamental, les menus faits du quotidien et les grands événements de l'histoire mondiale. Ce journal est d'ailleurs titré, c'est ce qui en fait certainement le fil rouge, mais cela tombe bien car c'est également une question qui intéresse probablement la société française tout entière. Ce journal est donc titré « Journal d'une quête de sens ». Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président et fondateur de l'Institut français des relations internationales, bien évidemment membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez consacré une grande partie de votre travail et de votre vie à donc scruter les relations internationales et la géopolitique. Mais là, soudainement, nous découvrons une autre facette de votre personnalité et de vos préoccupations à travers donc cette quête de sens qui entremêle, mais peut-être comme toutes nos vies, les fils de nos existences intimes et les grands événements de l'histoire mondiale. Qu'est-ce qui vous a poussé à tenir ce journal? Est-ce qu'il avait vocation à être publié ou est-ce l'idée d'un éditeur? Et en tous les cas, pourquoi avoir décidé de le livrer ainsi au public?
Alors, je crois qu'il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que c'est au journal d'une quête de sens, mais le titre du livre, c'est le journal d'une quête de sens, c'est le sous-titre. Le titre, c'est « Une goutte d'eau et l'océan ». Pourquoi une goutte d'eau et l'océan? En fait, ça vient d'une phrase de Mère Teresa, la sainte de Calcutta. Et l'idée, c'est qu'on a tous l'impression, vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, que ce que nous faisons dans la vie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Simplement, sans cette goutte, il manquerait quelque chose à l'océan. L'océan serait différent. Alors, je crois que c'est très important parce que dans la vie, tous, à un moment ou à un autre, et souvent plusieurs moments d'ailleurs, nous demandons ce que nous faisons sur cette terre et quel en est le sens. Et je pense que cette réflexion de Mère Teresa est extrêmement importante. Où tout a un sens, où rien n'a un sens, moi je crois que tout a un sens. Et la personne la plus en vue ou la personne la plus humble, nous avons tous notre goutte à porter à l'océan. Et encore une fois, sans cette goutte, il manquerait quelque chose à l'océan. Alors ça, c'est pour ce qui est publié. Alors le journal lui-même, en fait, je vais vous raconter en quelques mots, c'est assez intéressant parce que j'ai été le premier directeur en 1973 du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. C'est le Brain Trust, si vous voulez, du ministère des Affaires étrangères. Et à cette époque, j'ai commencé à rencontrer énormément de monde, à recevoir des personnes du matin au soir, à voyager dans le monde entier, etc. Et j'ai très vite compris l'importance de prendre des notes, parce que la mémoire est extrêmement faillible. On s'en rend bien compte, on pourra en reparler, si vous voulez, mais d'une journée, même du matin au soir, vous apercevez que vous perdez énormément de choses très rapidement, en fait. Et puis ensuite, vous déformez, etc. Donc j'ai pris l'habitude, qui est d'ailleurs une habitude de diplomate, mais aussi de journaliste. Les bons journalistes prennent aussi énormément de notes. J'ai pris l'habitude, surtout dans mes voyages au début, de prendre des notes au début sans faire trop attention à la rédaction. Puis progressivement, j'ai mis ça un petit peu en forme. Et en fait, à partir de l'année 1976, j'ai commencé à rédiger ce qui est devenu un journal, mais plutôt un journal de voyage. Puis quelques années plus tard, en 1992, qui est d'ailleurs l'année de mon élection à l'Académie des sciences morales, mais ça, c'est une coïncidence, ça n'a rien à voir spécifiquement, des amis m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas un journal tout court ?» Et donc, à partir de des derniers jours, je me souviens très bien de la fin des derniers jours de l'année 1992, j'ai commencé à faire un journal quotidien, ce qui est une astreinte énorme. Donc, ça fait à peu près 400 pages par an. Bon, vous faites le calcul. Et j'ai commencé, en fait, avec l'idée que je laisserais probablement tout ça derrière moi, mais, ou le laisser pour des chercheurs ou que sais-je, mais avec l'idée tout de même d'en publier certains extraits. Alors, ce volume-là n'est pas le premier. J'ai publié, il y a 3 ans, un gros livre de 500 pages aux éditions du Rocher qui s'appelle « Journal de Russie », qui était entièrement consacré à mes voyages en Russie. Et j'en ai publié un autre en Roumanie. Je n'ai pas publié en France. J'ai publié en édition bilingue en Roumanie. En France, je pensais qu'il n'y avait pas de public, qui s'appelle « Journal de Roumanie ». Et il y en aura d'autres comme ça. Donc voilà, en quelques mots, l'origine de ce livre-là. Là, qui s'appelle donc « Une goutte d'eau et l'océan ».
Oui, vous avez parlé d'un nombre de pages impressionnant par an, quelques 400. Je rassure nos auditeurs, bien que le journal court sur plus d'une quarantaine d'années, ce sont des fragments qui ont été publiés.
Ce sont des fragments, bien sûr.
Donc, c'est un livre qui est à portée de lecture pour le commun des mortels.
Exactement.
Mais ces fragments n'ont pas été sélectionnés au hasard, parce qu'il y a un aspect thématique, vous l'avez dit. Précédemment, journal de Roumanie, journal de Russie, et ici, journal d'une quête de sens.
Exactement. Parce que dans un journal, vous avez toutes sortes, par définition, vous avez toutes sortes de choses. En plus, comme j'ai des journées très remplies, j'écris ça, souvent je prends des notes comme ça, et puis une fois par semaine dans les avions, pendant les week-ends, beaucoup dans les avions d'ailleurs, je rédige un peu en essayant de ne jamais laisser s'écouler trop de journées. Mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent être extrêmement diverses et qui dépendent aussi de l'inspiration du moment. D'ailleurs, le propre d'un journal, c'est ça. Et donc, dans ce volume-là, on a extrait, en somme, sur une période de temps assez longue, comme vous l'avez dit, ce qui avait trait des réflexions qui, de type très divers, mais qui se rattachent à cette idée-là, qui est l'idée du sens. Et j'ajouterais que ce qui est très, très frappant, c'est que même les gens les plus apparemment blasés, les plus apparemment cyniques, etc., quand on discute avec eux, on s'aperçoit que je n'ai jamais vu un seul contre-exemple, que cette question du sens, elle intéresse tout le monde.
Je pense même qu'elle intéresse tout particulièrement notre société aujourd'hui. Hein.
Exactement, puisque nous semblons ne plus avoir de sens, une sorte de plus avoir de boussole.
Et donc cette quête de savoir, oui.
Pardon ?
Une difficulté à le percevoir, tout le moins.
Et une difficulté à le percevoir, parce que nous vivons dans le bruit en permanence, et que le bruit, l'agitation, et un changement probablement trop rapide. Le changement, c'est formidable, mais quand il est trop rapide, on perd ses racines, on n'a plus, justement, de boussole. Et c'est bien l'un des problèmes majeurs du monde contemporain.
Alors, j'ai parlé des deux dates. Donc, les premières prises de notes livrées dans ces fragments se déroulent donc à la fin des années 70. Nous sommes aujourd'hui en 2016, le livre se clôt en décembre 2014. Avec le recul, bon, des décennies où il y a eu des mutations absolument phénoménales, avec le recul qui est celui de cette prise de notes et de la relecture certainement de vos notes, qu'est-ce que vous identifiez comme les ruptures ou les évolutions majeures qui méritent d'être éclairées ou de susciter au moins la réflexion ?
Il y a de nombreux points de vue, hein, parce que évidemment, on pourrait s'amuser à survoler l'histoire du monde. Mais d'abord, la première remarque, c'est que 1977, c'est 4 ans après 1973. Alors, certains auditeurs se diront, oui, ça, c'est incontestable. Ce que je veux dire, c'est que 73 est une date très importante, parce que 73, c'est la crise de l'énergie. 1973, c'est la crise de l'énergie. En fait, cette crise de l'énergie, rétrospectivement, même d'ailleurs à l'époque, c'est une date très importante parce que c'est un petit peu la fin des illusions des Trente Glorieuses, c'est-à-dire de cette période de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale où on était fondamentalement optimiste. Et dans cette période, d'ailleurs, cette période n'a pas été non plus sans chahut, ce serait peut-être le mot le plus adapté, puisqu'il y a eu 68 qui a été une sorte de révolution larvée mondiale. Moi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, d'être aux États-Unis et de vivre aux États-Unis en 67-68. C'était la grande époque, j'étais à Berkeley, qui était en plus le foyer l'épicentre, qui a été le point de départ de cette fameuse événement de 68, mais qui était en résonance aussi avec la révolution culturelle en Chine. Enfin, tout ça, c'était des espèces de El Niño, pour prendre une métaphore climatologique tout à fait extraordinaire. Donc 73, c'est un espèce de retour brutal au réalisme. Donc 77, vous voyez le début de ces prises de notes, c'est déjà un moment qui est un peu moins gai. Alors sur le plan de la politique française, ce sont les années Giscard, puisque Giscard a été élu en 74, son septennat se termine en 80. Mais en fait, malgré tout, à l'époque, il y avait essentiellement le plein emploi. Je parle de la France. Là, la France se sentait déjà malheureuse. D'ailleurs, la France, j'ai toujours vu la France se sentant malheureuse. Mais par rapport à la situation d'aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans un autre monde. Et sur le plan de mes prises de notes, comme vous dites, c'était une époque où j'avais beaucoup de discussions un peu philosophiques avec un homme qui a joué un rôle important dans ma vie, qui était un de mes maîtres à l'école polytechnique, à l'époque où moi j'étais élève, qui s'appelait Jean Hulmeau. Et le livre commence, d'ailleurs les extraits commencent avec des réflexions sur la philosophie classique, en particulier sur Kant. Beaucoup de réflexions sur Kant qui, lues aujourd'hui, sont assez intéressantes parce que, en tout cas de mon point de vue, parce que c'était toujours cette foi très très forte et qui caractérise un peu l'esprit français dans les Lumières et dans la raison. Et naturellement, sur ce plan-là, les choses ont beaucoup évolué depuis. Alors, on pourrait parcourir l'histoire du monde depuis, mais je ne pense pas que ce soit votre intention. Mais le point de départ, en tout cas, est clair. Alors, le point d'arrivée, ça s'arrête vers 2014 parce que le livre a été publié en 2015. Mais évidemment, j'ai continué d'écrire depuis. C'est-à-dire que s'il y a à un moment ou à un autre une réédition de ce livre, il est vraisemblable qu'il y aura un certain nombre de pages supplémentaires. Oui, ou à second tome.
Je voudrais que nous revenions sur cette idée de foi dans le progrès, une sorte de corpus fait d'un certain nombre de certitudes liées à un bien-être et qui soudain s'est évanoui, en tout cas qu'on ne ressent plus aujourd'hui. Est-ce que c'est à la fois certainement une menace, mais est-ce que ce n'est pas aussi une chance? En le lisant, vos réflexions, on sent au fil du temps que peut-être c'est l'occasion d'un retour à l'essentiel ou à autre chose que ces certitudes peut-être un petit peu bouffies des Trente Glorieuses, malgré tout.
Alors vous avez tout à fait raison, mais je rajouterai encore un point sur la période de l'optimisme fondamental. Encore une fois, c'est plutôt années 60, années 50, années 60. Je parlais 68, qui paraît aujourd'hui d'ailleurs assez naïf quand on regarde les mouvements de 68, mais je pensais aussi à 69. Pourquoi 69 ? Je me souviens extrêmement bien, vous savez, les souvenirs, parfois, ça peut être extrêmement vivant, extrêmement charnel, d'Apollo, de l'atterrissage de la première mission humaine sur la Lune, et de ce sentiment d'exaltation tout à fait extraordinaire, et de ce sentiment aussi de la supériorité des États-Unis. Alors évidemment, Kennedy était mort, assassiné en 1963. Là aussi, d'ailleurs, j'en ai le souvenir comme dans le monde entier. Vous savez, c'est inouï. Hein, de tous les gens qui étaient adultes en 1963 savent exactement où ils étaient au moment de l'assassinat de Kennedy. C'est tout à fait extraordinaire. Mais toutes ces années-là, ce sont des années vraiment de foi dans la raison et dans le progrès. Alors, aujourd'hui, cette foi-là a largement disparu. Et elle a disparu pour des raisons multiples, mais la première, c'est que justement la raison ne peut pas tout. On a péché par orgueil. J'ai été pendant très longtemps aussi économiste, j'ai fait de l'économie théorique. J'étais à l'école polytechnique, je professais l'économie théorique. Mais dans les années 70, par exemple, les plus grands économistes qui avaient pignon sur rue, prenez quelqu'un comme Paul Samuelson, dont le nom est très connu parmi ceux, en tout cas, qui s'intéressent à cette discipline, ces gens-là croyaient que les problèmes économiques fondamentaux de l'humanité étaient résolus. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés que la science économique avait atteint un degré de perfection qui rendait le chômage impossible, par exemple, et que la cohabitation, la coexistence du plein emploi, de l'équilibre des balances de paiement, de la stabilité des prix, que tout cela était réalisé. Et on commençait à s'interroger, d'ailleurs, sur ce à quoi les économistes allaient bien pouvoir s'intéresser, puisqu'ils avaient réglé les problèmes de base. Et d'ailleurs, j'ai toujours été convaincu que la création du prix Nobel d'économie qui a été liée à cette foi, parce que pourquoi créer un prix Nobel d'économie, l'économie qui est une science molle, comme on dit, alors que les prix Nobel sont réservés au sens de la nature, pas aux mathématiques, comme on sait, qui ont leur régime à part. Mais pourquoi avoir créé un prix Nobel des sciences économiques? Je suis persuadé qu'aujourd'hui, on ne le ferait pas. Si on l'a fait à l'époque, c'était à cause de cette conviction que l'économie avait atteint une maturité aussi comparable à celle des sciences exactes et des sciences naturelles. Alors, il y avait donc un optimisme, et que tout ça, c'est l'optimisme dans la raison. Et on s'est bien aperçu ensuite que tout cette croyance dans les fruits de la raison, elle était lourdement ébranlée, et actuellement, d'ailleurs, elle l'est encore plus fortement, puisque on voit, et ça, c'est un phénomène plus récent, en même temps qu'on parle de robots, de transhumanisation, d'androïdes, etc., etc., en même temps, on voit apparaître sur le devant de la scène les comportements les plus barbares et l'utilisation de la religion aux fins les plus sataniques. Donc il y a des sortes de contradictions, si vous voulez, tout à fait extraordinaires. Et c'est intéressant de comparer à ce point de vue-là le début et la fin de la période. Alors en effet, je suis quand même optimiste, parce que je pense, comme toujours dans les épreuves, que ces malheurs ou ces difficultés peuvent être l'occasion de s'interroger et de retourner aux sources.
Au fil de ces années, au-delà des illusions que vous avez pointées concernant l'économie, il y en a eu un certain nombre d'autres. On peut citer des illusions concernant l'avenir qui pouvait s'ouvrir à l'issue de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique, et puis le rapport à la science. C'est peut-être ce qui est le plus frappant aujourd'hui, c'est que lorsque on se tourne vers l'avenir, il est assez rare de trouver, je suis ravi d'entendre que vous êtes optimiste, il est assez rare de trouver des gens qui sont encore optimistes, un petit peu en quelque sorte en panne d'utopie. Et c'est assez perceptible dans l'ouvrage. Au fil des pages, vous affirmez encore un optimisme, mais c'est un petit peu un optimisme de combat, dirais-je.
Ah, mais bien sûr, mais je crois que l'optimisme est toujours d'ailleurs de combat, parce que même si vous regardez les cycles d'humeur, les cycles naturels, il y a des moments d'optimisme, même les personnalités les plus stables mentalement ont des moments d'abattement. Ça fait partie des mouvements naturels de la vie. Donc l'optimisme est toujours un combat, mais évidemment à des degrés divers. Alors, je prends aussi deux autres exemples. Vous avez cité la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique. Ça, ce sont des événements que j'ai évidemment, en raison de mon métier, suivi, plus que suivi, de l'intérieur, d'extrêmement près. Mais là, je crois qu'on a fait de très, très lourdes erreurs d'interprétation. Si on lit ce que j'écrivais à l'époque, je n'ai jamais pensé un seul instant que la chute de l'Union soviétique pourrait immédiatement céder la place au Brave New World, c'est-à-dire brusquement au meilleur des mondes. Les chutes d'empires, parce que la chute de l'Union soviétique, c'est à la fois la chute du système soviétique et la chute de l'Empire russe. La chute d'empire, ça produit toujours des effets différés et pendant des décennies. En réalité, ce qui est même très frappant pour la chute de l'Empire russe, car c'est, encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit, c'est qu'il y a eu si peu de conséquences dramatiques au début. Mais en revanche, il y a toute une série de conséquences différées et qui vont continuer de s'étendre, parce que toute l'histoire du XXe siècle, quand on regarde de près, c'est une histoire de chute d'empire. Alors, beaucoup de déboires de pessimisme, beaucoup de sources de pessimisme sont en réalité le contre-choc d'un optimisme qui n'était pas fondé et qui était d'ailleurs ahistorique. Mais si vous comparez ce genre d'événement politique à ce qu'on disait juste avant sur l'économie, il y a une autre dimension, parce que en économie, c'est pas seulement le chômage et le retour des dysfonctionnements non maîtrisés, au fond, par la raison, qui nous frappe, mais c'est aussi l'échec finalement fondamental de toutes les politiques de, qu'on appelait le welfare state, c'est-à-dire l'idée de progrès social, la réduction des inégalités, etc., la protection sociale. Bon, tout ça, on voit que toutes ces politiques qui ont été mises en place pendant les Trente Glorieuses et poursuivies après, elles sont aujourd'hui, en tout cas dans un pays comme la France, parce qu'il ne faut pas mettre absolument tous les pays dans le même panier, il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres, elles sont remises en question. Et si la France se sent particulièrement pessimiste, plus que d'autres, plus que bien d'autres pays, c'est justement parce que son bilan global au cours de ces périodes n'est pas très fameux. Maintenant, si on prend une vision un peu plus spirituelle, ce qui, je crois, est mon cas. Et si on prend aussi une vision plus comparative, à la fois dans le temps et dans l'espace, on s'aperçoit qu'il faut peut-être aussi relativiser les choses et qu'il y a aussi des raisons d'être optimiste, mais un optimisme de volonté, pas un optimisme béat.
S'agissant de la France, c'est une évidence de dire, ou peut-être... Voilà, vous allez nous le confirmer ou pas, que nous vivons d'une ambiance qui est quelque peu dépressive. Notre invité que nous recevons ce matin disait, bah oui, c'est une évidence, nous vivons une forme de dépression collective. Nous, Français.
Nous, Français, oui.
Nous, Occidentaux, peut-être un petit peu au-delà.
Non, moins. Je suis moins sûr. Non, je suis moins sûr. Vous allez aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas dépressifs. Ils ont des. Si vous regardez par exemple la dynamique des élections actuelles, vous avez des mécanismes d'action et de réaction. Bush, George W. Bush, l'homme de la guerre d'Irak de 2003, etc., par ses excès, a entraîné une réaction qui était le mouvement de pendule en sens inverse. Et le mouvement de pendule en sens inverse, ça a été Obama. Et Obama, qui est quand même le premier président noir, qui est arrivé, en somme, beaucoup plus tôt que prévu, parce que chacun pensait qu'un jour ou l'autre, il y aurait un président noir, mais on l'attendait plus tard. Mais c'est, si j'ose dire, le contre-coup des excès de George W. Bush. Et maintenant, si vous regardez le succès de Donald Trump, il est évident que le succès de Donald Trump est aussi une réaction contre la présidence précédente. Mais est-ce que les États-Unis sont en dépression? Absolument pas. Les Américains ne sont absolument pas dépressifs. Ils n'ont d'ailleurs aucune raison de l'être, parce que, bien sûr, il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais ils ont un taux de chômage tout à fait supportable. Enfin, l'économie américaine est prospère. Il y a des difficultés, bien entendu. Mais enfin, on n'a absolument rien de comparable à la dépression française dont vous parlez à juste titre.
Alors, comment expliquer cette singularité de la France dans ce face-à-face avec un monde en mutation?
Parce que si nous parlons de la France, je pense que la France a énormément de mal à accepter la réalité et à s'adapter par conséquent, parce que accepter la réalité, c'est aussi s'adapter. Je vais vous donner deux exemples rapides. L'un sur le plan économique. Toutes les réformes dans notre pays ont vitalement besoin pour relancer son économie, réduire le chômage, etc., toutes ces réformes sont identifiées depuis au moins 25 ans. On les connaît. J'étais président moi-même de notre académie, l'Académie Sciences Morales et Politiques, l'année 2001, et j'avais pris comme thème pour des travaux de l'Académie Sciences Morales cette année-là la France du nouveau siècle. J'avais fait défiler dans nos invités beaucoup de personnalités pour parler justement des réformes à faire. Bon, quand on relit les travaux de cette année-là, donc il y a 15 ans, ce sont exactement tous les problèmes dont on parle aujourd'hui était posé et on s'aperçoit qu'il y a toujours, au moment où nous parlons, regardez cette malheureuse loi El Khomri, des résistances. On ne veut pas faire les réformes qu'il faut pourtant absolument faire, et on pourrait continuer. Alors ça, c'est sur le plan économique, mais c'est lié aussi au plan idéologique. Quand j'entends parler aujourd'hui, par exemple, du modèle dit républicain Bien sûr que je connais le modèle républicain, je connais l'idéologie républicaine, je connais l'idéologie de la laïcité, etc., etc. Mais quand on la développe au point de refuser totalement de voir les réalités sociologiques, voire ethniques, dans un pays comme la France, on commet une erreur majeure, parce que de la France, qu'on le veuille ou non, est devenue aussi un pays où la dimension communautaire existe. Alors évidemment, cette dimension communautaire est radicalement incompatible avec l'idéologie républicaine. Et d'ailleurs, j'en suis personnellement désolé, mais si j'essaye de regarder le monde tel qu'il est, je suis obligé de reconnaître les faits, et nous pratiquons beaucoup la politique de l'autruche. La France est malade de son État, qu'elle n'a pas, qui joue l'État, ça joue un rôle fondamental dans notre pays. Et nous sommes donc incapables de réformer l'État, qui est toujours très largement obèse. Et puis nous souffrons aussi de notre langue, parce que dans l'identité française, la langue, c'est un élément très important. Or, non seulement notre langue est de moins en moins parlée à l'étranger, et la francophonie, hélas, est plutôt en régression, mais en plus, nous la massacrons nous-mêmes. Par conséquent, quand vous mettez tout cela bout à bout, ça donne les éléments d'une dépression, si j'ose dire, largement autoproduite.
Pardonnez-moi, mais après ce tableau, je cherche les motifs d'espérance. Alors, sur quel point fondez-vous votre optimisme de combat et quel étendard brandir pour mobiliser les foules derrière des raisons d'espérer et d'agir?
Écoutez, d'abord, je ne cherche pas à mobiliser les foules. Si je cherchais à mobiliser les foules, premièrement, j'aurais choisi un autre métier, d'autres activités. Deuxièmement, je ne chercherais pas à convertir les foules en parlant à Canal Academy, quelle que soit la distinction que je connais de ceux qui nous écoutent. Et en fait, je me place à un point de vue un peu différent. D'abord, je pense qu'il faut effectivement retourner à des questions fondamentales. Par exemple, si on parle de religion, je parle beaucoup de religion dans ce journal, parce que on voit bien que au moment où nous sommes, et ça déborde très largement de la France, la perversion justement de certains utilisateurs ou manipulateurs des religions, plus probablement et même certainement d'ailleurs beaucoup de mauvaises habitudes prises par toutes les religions au fil du temps, oblige à une sorte de retour aux sources. Et le retour aux sources, retourner aux choses fondamentales, est toujours un élément important. Et moi, j'appelle ça un élément d'optimisme. Parce que quand on cherche à s'interroger sur la notion de spiritualité au sens large, on s'aperçoit qu'il y a des trésors extraordinaires dont on s'est peut-être, en général, dans nos civilisations matérialistes, un peu trop éloigné. Deuxième raison d'être optimiste, je pense, c'est aussi de regarder les autres, encore une fois, de ne pas être totalement là où on parle entre Français, et on parle, je pense, la plupart de nos éditeurs sont Français, mais encore une fois, regardons les autres. Bon, si vous êtes en Chine, si vous habitez en Asie, si vous habitez même dans certaines parties de l'Afrique, en Afrique, il y a énormément de drames qui se produisent, mais il y a aussi énormément de développement et de choses positives qui se passent. Alors, dans mon jeune temps, dans les années, justement, vers l'époque du début de ce journal, on se lamentait sur le tiers-monde, qu'il n'arrivait pas à se développer, on faisait du préchi-précha sur le tiers-monde, mais il se trouve qu'il se développe, ce tiers-monde, maintenant. Ben, on devrait s'en féliciter, mais le fait qu'il se développe a aussi quelques inconvénients pour nous, parce que le développement du tiers-monde a forcément des conséquences sur il nous malmène un peu, il nous oblige à nous remuer. Il est certain que à partir du moment où le tiers-monde se développe, il se met à produire à moindre coût des objets qu'avant nous étions les seuls à produire. Donc ça nous remue, ça nous gêne. Mais il faut voir que les causes de ces changements ne sont pas toutes négatives. Donc il y a énormément de facteurs qui devraient nous encourager. Et il faut aussi regarder un peu au-delà de son précaré, vous voyez. C'est pour ça que je suis optimiste. Alors, et quand vous regardez la longue durée, parce que c'est toujours toujours un bon exercice aussi de regarder l'histoire sur une longue période, vous voyez qu'il y a toujours eu des phases difficiles, et puis il y a toujours eu des périodes d'obscurité, et puis quand on sort de l'obscurité, il y a la lumière. Si vous permettez, parlant de phases d'obscurité, je suis en train de faire un tunnel, comme on dit, mais je pense comme ça à Stefan Zweig, qui est un des romanciers que, comme beaucoup d'autres, j'aime énormément. Mais Stefan Zweig, qui avait quitté donc l'Europe pour fuir le nazisme, et qui a passé donc la fin de ses jours au Brésil, où il a écrit d'ailleurs un très très beau livre qui s'appelle Le Monde d'hier, qui sont un peu ses mémoires, et qui sont un très très beau livre. Mais il s'est suicidé, si je ne me trompe, fin 42, avec sa femme. Et il s'est suicidé parce qu'il avait perdu l'espoir. Mais fin 42, il aurait dû, au contraire, il aurait dû, si j'ose dire, retrouver l'espoir. Parce que fin 42, exactement, c'était le tournant et c'est le moment où les esprits lucides pouvaient annoncer, sans être avec de la matière, si vous voulez, que la situation était en train de se renverser. Donc c'est pour ça qu'il faut être optimiste, mais pas un optimisme béat, c'est un optimisme de volonté qui suppose aussi un retour sur soi-même, des réflexions sur l'essentiel, sur le fondamental. Pour moi, par exemple, un homme comme le pape François est une nouvelle formidable, parce qu'il secoue l'Église, il y a des gens qui choquent, etc. Mais il a parfaitement compris que c'était vital aussi pour l'avenir de l'Église catholique, de l'Église romaine, de secouer tout ça et de revenir un peu sur les bases. Vous comprenez, un pape qui se met à pardonner moi le mot, mais je l'emploie parce qu'il me vient littéralement en tête, à engueuler ces cardinaux, ces évêques, pour me dire vous ne vivez pas comme il faut, vous n'avez pas le bon exemple, et il faut retourner aux choses fondamentales, mais c'est formidable, vous comprenez ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a bien des raisons d'être optimiste, et puis encore s'agissant de la France, si la France arrive enfin à faire ses réformes, vous verrez, la France repartira. Il faut bien distinguer entre déclin et décadence. C'est très important, cette distinction. Déclin n'est pas décadence. Le déclin, on peut remonter la pente. Décadence, c'est autre chose, et je crois qu'on n'en est pas encore tout à fait là.
Est-ce que la mélancolie française, pour l'appeler comme ça, ne vient pas aussi de... Et lorsque j'évoquais les États-Unis et j'englobais l'Occident dans le sentiment, est-ce qu'on ne traverse pas aussi une phase de doute, dans la mesure où il y a un monde multipolaire, c'est un truisme de le dire, eh bien, il est vraiment multipolaire. Est-ce que ce n'est pas cette perte de centralité auquel on s'était quand même un petit peu habitué, l'Europe, l'Occident, la France, avec ses idées quand même assez messianiques également, est-ce qu'on n'est pas orphelin de ça avant tout ?
On est toujours orphelin lorsqu'on a perdu ses parents. On est toujours orphelin du passé, mais que diable, on ne peut pas vivre constamment sous les portraits poussiéreux des ancêtres. Il faut d'ailleurs le monde antérieur, le monde ancien, j'appelle monde ancien celui antérieur à la chute de l'Union soviétique, n'était absolument pas monopolaire. Il était bipolaire, c'est-à-dire il y avait l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis, et vous aviez énormément de nuances. Par exemple, vous aviez des combats dans les pays périphériques, ce qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, et des guerres qui étaient peut-être extrêmement violentes. Faut-il rappeler, par exemple, le génocide au Cambodge avec les Khmers rouges, et qui a fait des centaines et des centaines de milliers de victimes. Et ceci, d'ailleurs, me conduit aussi à évoquer une autre dimension de la mélancolie. Alors pas seulement à cet égard de la mélancolie française, mais d'une mélancolie plus large. C'est que nous sommes aussi piégés un petit peu par les technologies de l'information. Les technologies de l'information ont énormément d'avantages, évidemment. Internet, les médias sociaux, les réseaux sociaux, etc., etc. Mais elles ont aussi pour effet que n'importe quoi dans le monde se trouve immédiatement porté à l'attention de tous. Et les gens ont l'illusion que c'est la porte à côté, alors que ce n'est pas la porte à côté. D'ailleurs, ils entendent constamment parler de coins du monde qui, brusquement, se trouvent portés à leur attention, mais en réalité, ils n'avaient jamais regardé sur une carte à quel endroit ça se trouvait, ni quelle population y vivait, vous voyez. Alors tout ça, ça contribue aussi à entretenir un bruit de fond négatif. Mais il y a eu aussi, dans cette période du monde bipolaire, il y a eu aussi des drames, et des drames épouvantables, et je crois que celui des Khmer Rouges en est une bonne illustration.
Pour revenir sur ces technologies de l'information et de la communication, on sent, c'est peut-être le propre d'un journal, qui forcément, lorsqu'on écrit un journal jour après jour, c'est un moment où on se retranche de cette frénésie. Est-ce qu'une part de la solution n'est pas là, finalement, se couper de la frénésie, de ce court-termisme, de ce temps saccadé qui est devenu le nôtre, pour prendre davantage de recul, peut-être retrouver le temps long à la fois dans l'examen du passé, mais aussi dans la prospective?
Alors ça, je crois que c'est un point, en effet, tout à fait fondamental. D'ailleurs, je crois que les dernières pages de mon livre terminent sur cette idée. Enfin, en fait, je commence avec l'idée du désert en rapportant un souvenir, à l'époque où je n'écrivais pas le journal, mais un souvenir qui, lui, date de 1965, qui a été mon premier contact avec le désert. J'escaladais le mont Sinaï à l'époque. Et puis, la dernière phrase, je crois, c'est aussi un appel à retourner aux sources et à pratiquer le silence et parler à propos. Et parler à propos, c'est pas constamment être en train de commenter pour dire sur tout et sur rien. Et aussi, il y a cet aspect un petit peu de l'idéologie actuelle, qui est l'aspect égalisateur, où toutes les paroles sont supposées égales. Vous mettez un prix Nobel et un étudiant en physique, ils seront supposés parler avec une égale autorité sur, je sais pas, la relativité générale ou les ondes gravitationnelles. Bon, tout ça, c'est un petit peu la tendance du moment. Et sur le plan économique, il est vrai que le fait d'être soumis en permanence à des résultats immédiats et ce manque de perspective que vous soulignez, c'est très perturbant. Alors, là aussi, mon optimisme, c'est que je crois beaucoup à l'action et à la réaction. Je faisais allusion à ça tout à l'heure à propos de la vie politique américaine actuelle. Bon. Mais en général, tout excès entraîne à un moment ou à un autre une réaction. Et la redécouverte, en effet, du temps un peu long est importante. Alors, je dis redécouverte. Mais en réalité, celles et ceux qui nous écoutent savent bien que rien dans ce bas monde, aucune entreprise, j'emploie le mot entreprise dans le sens le plus large, ça peut être une entreprise au sens économique, au sens d'une association, et même au sens de la construction d'une famille, aucune entreprise ne se fait comme ça dans un claquement de doigts. Il faut une vision, il faut une réflexion stratégique, oui, je dis bien stratégique, même dans une construction familiale, donc il faut avoir un cap. Et comme il y a un proverbe qui dit « il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ».
Le point clé dans celui-ci est de savoir justement où aller, quel est le projet à définir. Vous avez lancé, vous l'avez dit tout à l'heure, un certain nombre d'instances, de réflexions, à la fois nationales et internationales, visant à décrypter les enjeux du monde, mais j'imagine aussi offrir une vision prospective autour... Autour de quels éléments peut-on la construire? Quelles sont les balises, à défaut de tracer un grand chemin comme on pouvait le faire de façon un petit peu planifiée auparavant? Quelles sont les balises autour duquel il faut peut-être naviguer ou laisser notre pensée se projeter vers l'avant?
Il est impossible de répondre en deux mots à une question pareille, mais on peut donner quelques pistes. Moi, je fais mien depuis longtemps, d'ailleurs, un mot de Jaurès, c'est un peu de Jean Jaurès. Il faut partir du réel et aller vers l'idéal. Bon, mais il faut être réaliste. Ce que je constate, en particulier quand on parle de sujets liés à la politique internationale ou nationale ou internationale d'ailleurs, c'est qu'on met constamment l'idéalisme au mauvais endroit. Et ceci nous conduit à faire des erreurs considérables. Je pense personnellement que ces dernières années, quand je dis ces dernières années, je dis au moins 4-5 ans, mais probablement beaucoup plus, nous avons, nous occidentaux en général, et Français en particulier, commis d'énormes erreurs dans notre politique au Moyen-Orient, et vis-à-vis de la Russie aussi, mais c'est un autre sujet, mais particulièrement au Moyen-Orient, parce que nous avons... nous avons mis des considérations idéologiques au premier plan. Bon, renverser Bachar el-Assad, très bien, renverser Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est un personnage épouvantable, etc. Mais d'accord, mais pourquoi faire, pour mettre qui, etc. Et nous avons soutenu des gens qui, après d'ailleurs avoir soutenu les dictateurs, parce que nous les avons tous soutenus antérieurement, là nous avons soutenu aussi des gens qui ont contribué à créer ces désordres, et plus que ces désordres, ces crimes actuels. Je recevais avant-hier, deux jours avant le moment où nous entretenons, le patriarche de Babylone, le patriarche chaldéen de Babylone, Monseigneur Sacco, qui est une personnalité tout à fait impressionnante, qui, avec des mots doux, et c'est un homme, je peux vous dire, qu'on a vu de toutes les couleurs, dénoncer toutes les crimes, je dis bien les crimes, que nous, c'est les Occidentaux, avons finalement commis et qui sont largement responsables de cette catastrophe dont les chrétiens d'Orient sont victimes, qui s'apparente à certains égards aussi à un génocide. Et tout cela parce que nous avons mis de l'idéalisme, c'est même pas de l'idéalisme, c'est de l'idéologie, si vous voulez, c'est de l'idéologie. Alors je crois qu'il faut commencer par analyser les situations telles qu'elles sont. Il faut partir du réel. Mais ensuite, quand on conduit une action, qu'il s'agisse d'une politique nationale ou internationale, ou qu'il s'agisse d'un projet architectural, culturel, associatif, entrepreneurial de tout genre, il faut émettre aussi de l'âme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une dimension, en effet, idéaliste. Et dans mes propres entreprises, comme l'IFRI, cette grande conférence internationale, la World Policy Conference, j'essaye non pas du tout par ego, mais il faut. Je pars de principe que c'est important. Si au départ je considère que ce que je fais, quand je dis je, parce que c'est mon exemple, mais le je qui vous parle pourrait être remplacé par n'importe quel je, si j'ose dire, qui serait à ma place. Si l'on fait quelque chose et si l'on part d'emblée de l'idée que ça ne servira à rien et que ça n'a pas d'importance, bah à ce moment-là, autant se mettre sous sa couette et prendre un médicament pour s'endormir. Et c'est là où on retrouve le thème de la goutte d'eau. Et c'est ça qui boucle la boucle. Tous autant que nous sommes, nous devons, quand nous parlons d'action, nous devons partir d'une analyse réaliste de la situation dans laquelle notre action s'inscrit. Nous devons avoir une vision claire de ce que nous voulons faire et inscrire cette vision dans un schéma où il y a de l'idéal et où il y a, je dirais même, de la spiritualité, une dimension spirituelle qui peut revêtir de beaucoup de formes. Et il faut croire dans ce que nous faisons. Il faut croire que ce que nous faisons est important, parce que si nous ne croyons pas que ce que nous faisons est important, encore une fois, allons nous coucher.
Merci beaucoup. Il y a un terme qui m'a beaucoup frappé, que je trouve très intéressant dans votre ouvrage, c'est celui de fait singulier universel. Est-ce que ce n'est pas le point de cristallisation où les choses se réconcilient et le lieu même du réel, probablement ?
Tout à fait, parce que cette notion de fait singulier universel, c'est l'idée de toute façon que l'universel, nous ne l'approchons, nous ne pouvons le cerner, l'entrevoir que par le singulier. Et la philosophie pure, parce que j'adore la philosophie pure, mais la philosophie pure, ou en tout cas cette partie de la philosophie pure qui prétendrait ne voguer que dans l'universel ou dans la stratosphère est très largement suffisante. Je crois que dans les philosophes auxquels j'ai pu avoir un tout petit peu accès, celui qui, de ce point de vue-là, correspond le mieux à mes attentes personnelles, c'est Bergson. Car Bergson, c'est d'ailleurs ce que beaucoup de philosophes classiques rationalistes lui ont reproché, mais Bergson laissait justement une part très grande à l'intuition et au rôle justement universel de ce singulier qui fait aussi, je crois, la grandeur de l'homme.
Le livre se conclut également par la notion d'amour. J'étais à la fois surpris, étonné de devoir replacer cette notion qui finalement était mise hors du champ, généralement hors du champ politique ou géopolitique, et d'en refaire une notion centrale, déterminante.
Vous savez, je crois que quelle que soit la façon dont on s'y prenne, au bout du compte, on s'aperçoit que l'amour, c'est tout. Alors, évidemment, le mot amour, vous savez, par exemple, que dans la Bible, dans les évangiles, on dit tantôt amour, tantôt charité. Le choix du mot peut avoir des connotations différentes. Mais enfin, l'amour, c'est finalement l'attention. L'attention dans certains cas vis-à-vis du prochain. Le prochain, c'est la personne, ce sont les personnes qui sont autour de nous et ce ne sont pas des êtres abstraits. L'amour, c'est d'apporter ce quelque chose que chacun peut ressentir, mais qui est extraordinairement définissable par des mots, mais qui fait que l'autre se sentira aimé, justement. Et dans les difficultés de la vie, c'est souvent ça qui fait toute la différence. Un être qui se trouve dans la détresse, soit pour des raisons purement personnelles ou en raison des circonstances extérieures, mais qui va se sentir à un moment critique et qui va se sentir aimé, eh bien ça le sauve et ça va transformer le cours des choses. Donc, au bout du compte, en effet, je crois que c'est le maître mot. Et ceci me conduit d'ailleurs, si vous le voulez bien, à rajouter une idée connexe sur la politique. J'ai souvent été frappé, j'ai rencontré énormément d'hommes politiques, parfois des hommes d'État, il n'y en a pas beaucoup, non seulement français, mais beaucoup aussi étrangers. Et dans des conversations, j'ai toujours dit à un certain moment, bon, pour vous, qu'est-ce que c'est la politique ? Bon, alors ça, ce sera une autre émission. Mais une des réponses qu'on entend tout le temps, pour faire la politique, il faut aimer les gens. Bon, aimer les gens. Mais c'est quoi aimer les gens ? Vous voyez, aimer les gens, ça n'a rien à voir avec l'amour dont vous parlez. Aimer les gens, ça veut dire aimer, discuter avec des gens, s'intéresser aux problèmes qu'ils peuvent avoir et l'organisation de la société, boire un coup, etc. etc. Mais l'amour, c'est pas ça, c'est pas aimer les gens, c'est une attention extrêmement profonde et désintéressée vis-à-vis des personnes. Et ce n'est pas la même chose. Si vous voulez aimer les gens, en général, ce qui est une abstraction, et aimer personnes, c'est-à-dire avec lesquelles on va établir, fût-ce un moment, parce que les situations peuvent être extraordinairement variées, auxquelles on va prêter une attention qui va les toucher, ou qui va nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Et donc l'amour, c'est bien plus que cela. Les hommes politiques qui prétendent et qui disent aimer les gens, je crois que c'est vrai, s'ils le disent, il n'y a aucune raison d'en douter, mais l'amour, c'est pas ça.
Ça situe un autre niveau, c'est peut-être par excellence le fait singulier universel, l'amour.
Tout à fait. D'ailleurs, je crois que l'amour peut parfaitement rentrer dans ce fait singulier universel.
Et c'est ce qui se trouve au bout de la quête de sens ?
Je pense que je ne sais pas si j'emploierai le mot le bout, mais c'est au cœur, en tout cas, de la quête de sens.
Merci beaucoup Thierry Montmirel.
Merci à vous. Thank you.